On va écouter un petit peu de musique dans quelques instants et puis on écoutera la deuxième partie de son interview juste après. Je voulais quand même dans l'intervalle vous donner une bonne nouvelle, hein, c'est important dans nos émissions, dire effectivement qu'Amnesty ça marche et qu'on obtient régulièrement des bonnes nouvelles. Et donc une bonne nouvelle qui concerne la Turquie. Le 19 juin 2018, donc juste avant les vacances d'été, un tribunal a ordonné la libération immédiate du rappeur Ezhel, accusé d'incitation publique à la consommation de stupéfiants. Le juge ne disposait pas de suffisamment d'éléments prouvant sa culpabilité. L'arrestation et la détention d'Ezhel avaient poussé ses sympathisants à lancer une campagne virale sur les réseaux sociaux. Des milliers d'internautes avaient demandé sa libération. L'acquittement du rappeur représente une avancée positive importante dans un pays où la liberté d'expression est de plus en plus attaquée depuis la mise en place de l'état d'urgence en juillet 2016. Ezhel a remercié Amnesty International et ses sympathisants pour leur rôle majeur lors de cette campagne, demandant son acquittement. Et il nous a dit « Nous sommes unis, merci pour votre solidarité et vos actions ». Voilà. On écoute un petit peu de musique avant la deuxième partie de l'interview de Renzo.
Rediffusion d'une émission Principe Actif. Une rediff, quoi.
What is the time? What is the way? Is there a solution? Won't somebody say? Can you tell me what is the time? Some people laugh and they grin and they having a real good time. Walk around the block, everybody screaming and crying. Lord, what is the time? Say, is it black or white or somewhere in between? Can we talk about it or we're gonna blow up everything? Oh, Lord, yes. What is the time? What about the baby? Coming up today, when they ask us what we gonna say, can we tell them what is the time? On the left they keep on telling us what we already know. On the right don't get too close, but you can watch the show.
Voilà, donc de retour sur l'antenne de Principe Actif, c'était Casby Brown qu'on vient d'écouter. Et donc nous allons redonner la parole à notre ami Renzo Alexander pour la deuxième partie de son interview. Si je comprends bien, en fait, votre action se situe principalement par la mobilisation du public et de l'opinion publique et de la population par rapport à l'information sur ses droits et aussi à des manifestations pacifiques et, j'allais dire, même festives par rapport à ce qui se passe. Donc vous vous placez dans une démarche effectivement de respect de la vie démocratique. Ça me fait penser que la Colombie est aussi connue pour avoir connu une guerre civile avec les FARC pendant beaucoup d'années. On sait qu'il y a un processus de paix qui a été officiellement signé depuis un peu plus d'un an maintenant. Pouvez-vous nous dire un petit peu plus sur la situation en Colombie? Qu'est-ce qu'il reste de ces années de violence? Comment ça se passe au niveau de l'oppression des autorités ou des paramilitaires qui peuvent encore exister? Et vous-même, dans votre action quotidienne, l'association pour laquelle vous travaillez, êtes-vous vous-même soumis à des pressions ou à des menaces directes des éléments qui encore existants de la violence de la violence qui a duré dans votre pays pendant tant d'années?
Nosotros nos encontramos muy preocupados con la entrada del nuevo gobierno, el de
Nous sommes très inquiets de l'arrivée du nouveau gouvernement colombien d'Iván Duque, qui prétend limiter les applications du processus de paix avec les FARC. Il essaye d'interrompre toutes les garanties de mise en place des accords qui ont été signés d'abord à La Havane, puis au Théâtre Colón de Bogotá. Dans notre pays, il y a eu un plébiscite et notre peuple a été manipulé. Il a voté majoritairement contre l'application de ces processus de paix. Celui-ci a donc été réajusté et nous considérons que cela a décrédibilisé notre pays à l'échelle mondiale, car cette manipulation a réussi. Il s'agit d'un conflit qui existe depuis plus de 60 ans et qui a laissé derrière lui plus de 300 000 morts et disparus. Notre pays compte presque 6 millions de réfugiés internes, auxquels on a volé beaucoup de leurs terres. Au total, 8 millions d'hectares. Tout cela est préoccupant, car les manipulations laissent penser que notre peuple approuve ces pratiques. Nous sommes aussi inquiets du fait que le processus de paix avec l'armée de libération nationale soit interrompu et que la démilitarisation et le démantèlement des groupes paramilitaires ne soient pas garantis. Ces groupes ont été mis en place à l'arrivée du gouvernement d'Álvaro Uribe, apparemment pour garantir le processus de paix, mais dans la pratique, ils ont été beaucoup critiqués par les différentes régions du pays, car ils sont en lien avec les narcotrafiquants. Nous croyons que tout cela doit s'arrêter. Il est évident que nous sommes face à une paix corporatiste qui va permettre aux multinationales de s'installer sur des territoires qu'ils ne pouvaient pas exploiter, car ils n'en avaient pas l'accès pour développer ce projet d'exploitation minière, pétrolière et hydroélectrique. Tout cela engendre un climat très conflictuel dans le pays. La société colombienne est mise à l'écart de ces processus de paix et n'a pas l'opportunité de participer à ces affaires qui la concernent. Notre partie de l'origine du conflit, je répète, une partie de l'origine du conflit armé est liée à l'injustice, à l'inéquité et au non-accès à la terre pour beaucoup de paysans et indigènes. Et cela ne va pas et s'arrangeant. Il y a des contradictions très fortes. D'un côté, le peuple paysan parle d'un pillage de presque 8 millions d'hectares et le gouvernement le reconnaît seulement pour 2,3 millions d'hectares et n'en a restitué que 15%. C'est-à-dire 300 000. Cela conduit logiquement à la violence. Le principal problème est que pendant qu'on parle du processus de paix avec les FARC et l'OLN, il y a eu 400 leaders sociaux assassinés depuis le 1er janvier 2016. Pendant le sommet pour la défense des droits humains à Paris, la semaine dernière, nous avons reçu l'information du massacre de 6 personnes, 2 blessés et 2 disparus, dans le département de Cauca. Et avant-hier, ils ont aussi assassiné un professeur de notre pays. Pendant que l'on parle de paix, on assassine des défenseurs des droits humains en Colombie. Nous pensons que la communauté internationale doit exiger du gouvernement de Colombie plus de cohérence et la garantie de la protection et de la sécurité des défenseurs des droits humains. Ce cynisme légitime un discours qui ne correspond pas à la réalité.
116 líderes en el que nos encontramos hoy en día, en que se promueve un discurso que no se corresponde con la realidad.
Par rapport à tout ce que vous venez de dire, effectivement, il y a pas mal de choses, de points communs, même si la situation est différente, bien évidemment, entre l'Amérique du Sud et ce qu'on peut connaître, nous, en Europe, mais on retrouve effectivement des points communs qui sont les injustices sociales, l'omniprésence, dirons-nous, des multinationales, pour employer un terme général, et toutes les conséquences que ça peut avoir, le refus de la démocratie, dans le sens où il y a des remises en cause des décisions et des votes faits par les États. On connaît ça aussi ici. Donc on prend conscience que l'environnement général de remise en cause des droits humains que l'on rencontre à l'heure actuelle se retrouve avec différentes facettes, mais se retrouve avec des points communs entre votre situation et la nôtre. Et ça me fait penser, comment voyez-vous, en fait, comment interprétez-vous les derniers événements de l'évolution des droits humains dans les pays limitrophes en Amérique latine? Je pense à la situation au Venezuela et au Brésil. Alors, ce sont effectivement, et les élections présidentielles au Brésil, ce sont effectivement de très vastes sujets. Mais pouvez-nous nous dire un petit mot comment vous, en tant que militant colombien, interprétez cette évolution des droits humains et de remise en cause des droits humains?
En la relation con Venezuela, con Bolivia.
Nous avons beaucoup de difficultés dans nos relations avec le Venezuela, la Bolivie, l'Équateur, la Corée, avec le Nicaragua et le gouvernement actuel du Mexique. Nous aimerons préserver l'espoir que ces gouvernements puissent défendre les droits humains et qu'ils puissent mettre en place d'autres types de développement. Mais la réalité est que, étant en lien avec les sociétés d'extraction, il n'y a pas d'autre option. C'est du néo-extractivisme. Ces gouvernements de gauche devraient écouter plus leur peuple et mettre en place des logiques de développement économique alternatif pour fortifier, par exemple, le tourisme, les services, les sciences, les technologies d'innovation pour générer des bénéfices mieux répartis entre les différents membres des communautés. Cela ne marche pas comme il faudrait. C'est la même chose dans les pays avec des gouvernements de droite, parce qu'ils favorisent l'augmentation des inégalités. Il s'agit de deux faces de la même médaille, et nous pensons qu'il faut construire de nouvelles politiques économiques et culturelles. La gauche ne fait pas assez, et il faut remotiver la jeunesse pour qu'elle puisse accéder à plus de dignité et de rendre l'humanité heureuse. Nous sommes à un tournant de l'histoire très important. Les jeunes entre 15 et 25 ans sont les mieux formés de l'histoire de l'humanité, et la société ne leur offre pas d'opportunités. Ils sont sans travail et ne peuvent pas avoir des projets ni pour les présents ni pour les futurs.
Ça me permet de venir sur un point que je voulais aussi aborder, effectivement. Qu'est-ce que vous pensez de quelque chose qui nous tient beaucoup à cœur, nous, au niveau d'Amnesty International, puisque c'est notre façon de travailler depuis toujours? Est-ce que vous considérez que la solidarité internationale et le fait de publier un certain nombre d'informations, d'essayer de mobiliser les gens à travers le monde, d'essayer de confronter les différentes situations, toujours dans l'optique d'un meilleur respect des droits humains et des droits écologiques, enfin, etc. Et est-ce que vous pensez, par rapport aux problèmes qui se posent à l'heure actuelle de pente descendante, de respect des droits humains qu'on retrouve au niveau mondial, est-ce que vous pensez que c'est une réponse appropriée pour faire que la situation s'inverse?
El movimiento internacional hablaba hace algunos años que si globalizan la miseria, nosotros deberíamos globalizar la lucha y la esperanza.
Il y a deux semaines, nous étions à Genève, à une réunion d'un groupe de travail sur la consolidation d'outils juridiques contraignants qui obligent les entreprises multinationales à respecter les droits humains. Il s'appelle le traité d'entreprise des droits humains. Aujourd'hui, il n'existe que des principes sans obligation pour les multinationales dans n'importe quel type d'activité. Nous nous sommes rendus compte qu'il existe des déséquilibres très forts Nous avons ressenti les pressions des corporations et des lobbies face au thème de la dignité humaine. Il ne devrait rien y avoir de plus fort que la dignité et les droits humains devraient être au-dessous de tout. Cependant, dans l'actualité, c'est l'économie qui domine et qui norme les activités sociales, économiques et culturelles. Cela engendre de l'injustice et des inégalités extrapolables au monde entier. Il faut continuer à travailler, car personnellement, j'ai l'impression qu'on est en train de perdre la lutte. La priorité est donnée au marché privé. Le mouvement international disait il y a quelques années que si on globalisait la misère, nous devrions aussi globaliser la lutte et l'espoir. Nous sommes dans l'obligation d'être un peu autocritiques parce que nous n'avons pas été très efficaces en tant que mouvement alternatif partout autour du monde. Je pense que nous pouvons essayer, par exemple, d'arriver à construire une logique de production paysanne et rurale, morale, dans beaucoup de pays du Sud, pour qu'il existe une vraie possibilité d'échange et de commerce équitable entre ces pays qui ne soient pas marginaux et qui puissent rivaliser avec la logique capitaliste néolibérale. Par exemple, nous mettons en place quelques petits marchés locaux qui restent romantiques. Mais il faut commencer à mettre en place quelques logiques capables de construire un nouveau système économique dominant qui démontre que nous pouvons mettre en place une nouvelle économie dans laquelle les bénéfices sont mieux répartis à la globalité des peuples. Nous devons nous asseoir autour d'une table pour construire ensemble un tel modèle. Nous ne devons pas nous contenter d'une solidarité ponctuelle, sans volonté d'aller plus loin. Nous faisons seulement des petites choses positives, sans avoir un vrai impact sur la société. Par exemple, nous pourrions remplacer Starbucks, qui fait payer 4 dollars pour un café, en exploitant des paysans qui ne touchent au final que 12 centimes. C'est un déséquilibre évident. Avec des nouveaux modèles de production et un vrai commerce équitable, nous pourrions faire baisser les prix finaux de moitié. Les bénéfices pour les paysans seraient alors plus importants. Un autre exemple est le chocolat. Les Belges et les Suisses sont considérés comme les meilleurs chocolatiers du monde, alors qu'ils ne produisent pas de cacao. Nous devrions apprendre aux paysans de Colombie, de Costa Rica, de Côte d'Ivoire et du Congo à transformer eux-mêmes le cacao pour produire leur propre chocolat.
On va devoir conclure sur ce débat, effectivement. On aurait pu continuer pendant des heures, hein, c'est certain. Mais bon, on est pris par le temps. Simplement, c'est difficile de faire une conclusion, mais c'est simplement dire un petit mot. Ce que je retiens de la discussion qu'on vient d'avoir avec Renzo, c'est qu'on partage effectivement un point de vue qui est tout à fait le même. C'est que, disons que la société humaine, si on veut employer un terme très général, la société humaine n'a véritablement d'avenir que si on met comme priorité la dignité humaine, le respect mutuel, la plus grande égalité possible entre les différentes communautés humaines, et que pour cela, effectivement, pour agir dans ce sens-là, il faut faire preuve d'imagination. Ça, c'est quelque chose qui nous parle beaucoup aussi, nous, en tant que militants d'Amnesty, faire preuve d'imagination. Et puis, s'appuyer sur la jeunesse, c'est quelque chose aussi qui est effectivement important. Je sais que Renzo a participé ce week-end dernier jusqu'à hier à la réunion des antennes jeunes d'Amnesty à Paris. Donc, voilà, ça va tout à fait dans le même sens, mais que c'est grâce à l'appui de la jeunesse et sa mobilisation qu'on pourra effectivement changer les choses. Et moi, j'ajouterais que c'est un peu ce que je pense de plus en plus à l'heure actuelle, que si on continue sur le terrain des inégalités, de la violence et de la remise en cause des droits humains, c'est tout à fait utopique de continuer comme ça et qu'il n'y a aucun avenir à ce niveau-là. Donc, il faut effectivement continuer à se mobiliser pour aller dans le sens tout à fait opposé. Merci beaucoup, Renzo. Et bien, bon séjour en France.
Voilà. Gracias.
Bien voilà, on vient d'entendre donc l'interview de Renzo qui a été réalisée encore une fois le 5 novembre dernier. Et donc on le remercie pour sa visite à Évreux et le courage que représentent toutes ces actions en Colombie pour défendre les droits humains et les droits de sa communauté. On remercie aussi parce qu'ils nous ont filé un sacré coup de main pour la traduction, le montage, etc. de cette interview. On remercie Juan qui anime sur notre antenne aussi la Calle del Ritmo. On remercie Guillaume de l'émission Pick Up qui nous a bien aidé à transcrire et à traduire en français. Et puis on remercie Vincent qui a fait tout le travail de montage pour que vous puissiez écouter cette interview dans les meilleures conditions techniques possibles. Voilà, un grand merci à eux tous. Et puis avant de rendre l'antenne, il nous reste quelques minutes, il y a Mina qui voulait vous reparler des cas des 10 jours pour signer. On vous rappelle du 1er au 10 décembre, 10 jours pour signer, 10 cas à défendre avec Amnesty.
Oui, justement, sur cette année des 70 ans de la DUDH et les défenseurs des droits humains, avant que justement quelqu'un soit tué, on voulait reparler de Marielle Franco au Brésil qui a été assassinée pour avoir porté la voix des plus vulnérables. Elle était infatigable militante et conseillère municipale de Rio de Janeiro. Elle a été abattue avec son chauffeur Anderson Pedro Gomez le 14 mars 2018 à l'âge de 38 ans. Élevée dans la favela des Marais, ensemble de 16 bidonvilles au nord de Rio, elle s'était engagée dans la défense des droits humains après la mort d'une amie victime d'une balle perdue dans un affrontement entre des trafiquants et des policiers. La jeune élue était diplômée en sciences sociales et avait bénéficié d'une bourse pour poursuivre ses études. Bien connue pour son activisme en faveur des femmes noires, des LGBTI et des jeunes, elle dénonçait en particulier les exactions commises par des forces de l'ordre. Marielle incarnait les droits qu'elle défendait, confie sa compagne Monica. Les éléments de preuve révèlent que le meurtre fut exécuté par des professionnels. Les experts affirment notamment que les cartouches utilisées pour tuer Marielle Franco proviennent d'un lot de munitions ayant appartenu initialement à la police fédérale. Aussi longtemps que nous en aurons la force, nous exigerons que justice soit faite, a déclaré sa sœur. Avec au moins 70 assassinats de défenseurs des droits humains en 2017, le Brésil est l'un des pays les plus meurtriers au monde et les auteurs de ces violences restent trop souvent impunis. Nous demandons aux autorités de mettre en place une enquête rigoureuse et indépendante, identifiant les acteurs matériels et intellectuels et leurs motivations, les traduisant en justice. De mettre en œuvre des mesures de protection, de soutien psychosocial et d'autres réparations en faveur de la famille de Marielle et des témoins du crime. Nous demandons de condamner publiquement les menaces et attaques contre les défenseurs, excusez-moi, des droits humains et de rétablir et implémenter le programme de protection des défenseurs des droits humains. J'avais un problème d'orthographe, excusez-moi. Donc justement, ce cas, même si elle est déjà décédée, de Marielle Franco, dans les 10 jours pour signer, c'est pour dire on n'oublie pas et on défend, on n'a pas à mourir pour défendre les droits humains.
Et on rappelle que le Brésil vient d'élire un président qui a fait des déclarations qui ne nous plaisent pas du tout. Et voilà, donc on rappelle effectivement qu'on sera très vigilant et Amnesty Brésil sera également très vigilante pour faire en sorte qu'il ne puisse pas mettre les menaces qu'il avait proférées vis-à-vis des droits humains à exécution.
Le site Amnesty France, à partir du 1er décembre, pourra signer.
Pour signer, alors vous allez sur le site amnesty.fr, www.amnesty.fr, vous aurez en première page les 10 jours pour signer pendant les 10 jours de l'opération. On vous rappelle du 1er au 10, on vous rappelle que c'est toujours au mois de décembre, puisque c'est le 10e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme, des droits humains, et donc qui est célébré tous les ans le 8. Et cette année, c'est d'autant plus important qu'on a le 70e anniversaire. Et ça nous ramène aussi à notre actualité locale. Donc on vous rappelle qu'on a le 6 décembre prochain, le jeudi 6 décembre, et une émission de radio consacrée justement à cette année, dans la série des émissions de radio coproduites avec la radio Principe Actif qui s'appelle Fréquences Droits Humains, une émission consacrée à la 70e anniversaire de cette déclaration. Et nous parlerons de sa réalité aujourd'hui, nous parlerons d'éducation aux droits humains et nous parlerons aussi, c'est important, de tous les points communs qu'il y a entre la défense des droits humains et la défense des droits écologiques. Voilà, nous aurons juste après, deux jours après, un stand de, le 8, donc le samedi 8, un stand de 10 jours pour signer, où là vous aurez la possibilité aussi avec nous de signer ces pétitions et d'écrire en soutien aux gens que l'on défend. Donc au Miroir d'eau, toute la journée du samedi, au Miroir d'eau, c'est en haut de la rue Chartraine à Évreux. Et puis, le samedi 15, on sera également présent avec le Tangram. On aura un stand au concert de The Limbos au Cube, donc le samedi 15 à 20h, où là on pourra célébrer aussi en musique le 70e anniversaire, ce sera juste après. Donc on pourra passer une soirée festive, mais il y aura aussi des choses à signer avec nous. Une soirée festive avec The Limbos au Cube le samedi 15. Voilà. Je crois que je n'ai rien oublié. T'as raison, Mina, notre prochaine émission.
Le mardi 11 décembre à 19h.
C'est ça. Je vois que tu avais effectivement regardé ton calendrier pour ne pas oublier cette prochaine émission. Eh bien, on remercie encore une fois tous ceux qui ont participé à la mise en place et à la préparation de cette interview de Renzo. Et Candice qui paraît ne manquera pas de lui communiquer en Colombie puisqu'il est rentré là-bas, mais il aura forcément des échos sur cette émission. Et puis...
Comme dirait Bob Dylan, we can work it out.
C'est ça.
Et à la prochaine.
À très bientôt. Au Donc revoir. Rendez-vous le 11 sur l'antenne de Principe Actif.
Partout dans le monde, Amnesty International se bat pour mettre en lumière les violations des droits humains. Sortez de l'oubli les personnes dont les droits sont bafoués.
Article 1er. Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité.
Avec vous ce soir, Amnesty International Évreux.